écolos en cavalcade.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Les Écolos en Cavalcalade sur Radio Calade 100.9, émission inspirée par le mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre. Alors, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière, on est dans l'international. Le thème de notre émission, c'est autonomie alimentaire et échange culturel. Et notre invité pendant toute cette émission, c'est Khalifa Papis Soané. Bonjour Khalifa. Alors, Papis, est-ce que tu veux nous dire en deux mots, tu veux te présenter ?
Bonjour à tous, je m'appelle Khalifa Papis Soané, je suis sénégalais, habite au sud du pays, dans un village qui s'appelle Kabadou.
Ok. Alors, on va commencer, voilà comment ça va se passer l'émission. Je vais vous donner une information locale. Ensuite, on va échanger avec Papis autour de la permaculture, l'échange culturel, mais aussi la santé et l'éducation au Sénégal. Et puis ensuite, on terminera par une initiative, un zèbre que je vais vous présenter, qui fait partie du mouvement Bleu Blanc Zèbre, qui s'appelle Héritage et Civilisation. Alors, on commence tout de suite le journal par l'info locale. Papis, tu n'hésites pas à réagir, à me dire ce que tu en penses, et puis on attaque. Alors, je vais vous parler d'une information locale qui est initiée par la communauté de communes Saône-Beaujolais et le syndicat mixte des rivières du Beaujolais, qui lance un nouveau programme pour soutenir les agriculteurs qui rendent des services environnementaux. L'objectif, c'est reconquérir la qualité de l'eau et la biodiversité. Alors, ce programme, il s'adresse aux agriculteurs, mais aussi aux viticulteurs. C'est un programme de paiement pour des services environnementaux. Alors, je vais donner quelques petites informations au niveau des contacts. Il ne faut pas hésiter à vous en rapprocher. Pour tout ce qui est lié à la viticulture, vous pouvez contacter a.pâtissier, comme le métier, @smrb, syndicat mixte des rivières du Beaujolais, -beaujolais.fr, ou bien le contact téléphone, c'est le 04 74 06 75 84. Et si vous êtes plutôt lié à l'agriculture, alors là, vous contacterez le responsable en charge des grandes cultures de l'élevage. Alors là, le mail, ce sera développementdurable@ccsb, communauté de communes Saône-Beaujolais, saunebeaujolais.fr. Et le contact par téléphone, je vous le donne, c'est le 04 74 66 60 00. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la CCSB ou bien sur la page Facebook de la communauté de communes Saône-Beaujolais. Qu'est-ce que tu en penses, Papis, de ces initiatives locales pour protéger et préserver la biodiversité et l'eau ?
Merci, c'est des initiatives à encourager. Je pense que ça motive quand même de mettre quelques mots parce qu'effectivement, on s'y voit dedans et tout le monde a sa place dans tout ce que vous venez de citer tout à l'heure. Et ça montre effectivement que le monde de toutes ces listes dont vous venez de citer est un monde joyeux parce qu'aujourd'hui, à distance, on en parle. Il y en a certains détails qu'on vit ici. Et c'est le monde de diversité, c'est ça ?
C'est ça, la biodiversité.
Cette biodiversité, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je ne dirais pas tous les quatre coins du monde, mais aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on en parle beaucoup parce que chacun maîtrise son secteur, nous, on maîtrise le nôtre. Donc ici, on en parle beaucoup et beaucoup de gens comme nous, nous la vivons beaucoup ici. Et puis, ce qui se passe aussi dans nos activités culturelles.
Ça fait chaud au cœur de voir qu'en fait, aux quatre coins du monde, on se sent concerné et qu'on s'active pour préserver la planète.
Exactement. Surtout ici, c'est des choses qui sont hyper importantes parce qu'il y a des communautés locales qui sont en train de monter des équipes quand même pour la protection de tout ce que vous venez de dire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider pour le reste du monde à mieux vivre dans sa localité.
Superbe transition, Papis, puisque maintenant on va parler de tes activités. On va parler de toi qui investis dans la vie de ton village et la vie associative depuis plus de 20 ans. Et puis, je crois que depuis 2016, tu es sur un projet de permaculture. Alors, est-ce que tu peux nous parler du pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette initiative ? Pour lutter contre quoi ? Pour changer quoi ?
Là, cette réponse, elle est si simple parce qu'aujourd'hui, pour choisir cette vie de permaculture, c'est quand même avoir une vie normale. Pour avoir une vie normale, il faut avoir un lien avec la terre. Donc, le lien avec la terre, c'est très simple. C'est quand même d'aller la voir, comme on dit ici. La terre n'a pas besoin de nous pour se débrouiller. C'est nous qui avons besoin de la terre pour nous débrouiller. Donc, ce qui est important, c'est quand même répondre à l'appel de la terre. Et aujourd'hui, quand on parle de la permaculture, c'est le contact direct avec la terre et avoir une vie saine. Parce que qu'est-ce qui est plus beau que d'aller dans un jardin, que tu as même labouré toi-même et que tu prends des légumes et des choses pour bouffer. Donc la consommation de sa propre production, je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant pour la santé, parce qu'on dit avant tout la santé. Donc ce qui nous a motivés, moi-même et mon équipe ici au Sénégal, en Casamance, à Cabadou, dans un village de Brousse où se manifeste une ardente volonté de vivre, comme je l'ai dit, je pense que c'est l'agriculture permanente. Parce qu'avant, nos parents, ils attendent qu'il pleuve pour passer, pour faire l'agriculture. Ici, on se dit maintenant, la permaculture, qu'il pleuve ou pas, faisons l'agriculture. Donc, c'est pourquoi il y a le mot permanence. Donc, aujourd'hui, l'association Perma Cabadou joue ce rôle moteur dans le village de Cabadou où on reçoit des gens qui viennent se former et être formés. Donc, je pense que beaucoup de parcelles sont occupées par des gens privés qui viennent nous voir pour des conseils, pour nous dire « écoute, ça nous intéresse ce que vous faites et on veut vraiment participer à ça énergiquement, on veut participer même financièrement, physiquement pour quand même avoir cette vie avec la terre ». Donc, c'est ça, en fait, l'une des plus importantes.
Papis, quel impact ça a sur la jeunesse locale, la jeunesse de ton village ?
Ben, la jeunesse, l'impact, c'est simple. Aujourd'hui même, tout à l'heure, je viens de parler avec le président de la jeunesse de Cabadou, qui s'appelle M. Moustapha Kandoura Diaman, qui est un professeur d'histoire-géographie. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, je l'ai appelé, comme quoi je suis invité à la radio Calade de vous, Ronald, c'est ça ?
Oui.
Je suis dans la bonne adresse. Voilà. Et donc, il est super content. Et nous avons lancé cette émission dans le panel de toute la jeunesse de Cabadou, qui s'appelle AJIC, Association des jeunes unis du Cabadou, et qui aujourd'hui ont besoin de liens pour quand même suivre l'émission. Donc aujourd'hui, l'impact que ça fait, pour répondre vraiment à votre question, c'est que ça lutte contre l'exode rural, parce que les jeunes sans activité, le village est vide, sans activité, chacun va vouloir quand même prendre la pirogue, parce qu'on se trompe en disant que la meilleure vie se trouve en Europe. Mais aujourd'hui, en développant son terrain, ses parcelles, ou les parcelles, dans le cadre de la permaculture, ça montre effectivement qu'il y a une activité sur laquelle on se base pour avoir une vie normale, sans même aller braver la mer pour l'Eldorado, qui est un mauvais rêve en fait.
Pour lutter contre l'exode rural en fait, c'est ce que j'entends. Vous permettez aux jeunes de s'impliquer localement dans la vie de leur village, de semer et en plus récolter les fruits de leurs efforts pour les empêcher d'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs, si j'ose.
Oui, oui, c'est exactement ça. Et si vous voulez bien, là où dans notre ferme, on a une dizaine de jeunes qui dorment et chaque jour, il y a une vingtaine de jeunes qui viennent travailler. Il y a même certains jeunes étudiants qui viennent participer au travail. Imagine ces étudiants qui étaient à l'université et qui vraiment retrouvent leur place dans cette activité permaculturelle. Ça nous motive et ça montre effectivement que sans peut-être ces activités, certains auraient voulu vendre leur parcelle, leur terrain, pour, comme d'ailleurs la plupart de certains Sénégalais qui vendent le bien de la famille, les vaches, les bœufs ou les terrains pour se payer une pirogue de la Libye en Italie ou du Maroc en Espagne, je pense que c'est quelque chose qui montre effectivement que c'est parce qu'il n'y a pas de boulot, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité, c'est parce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent tenir les gens. Donc la permaculture est devenue l'une des solutions les plus fiables qui tiennent des gens ici, des jeunes, quand même pour leur dire pas la peine de vendre ton terrain à 2 000 euros ou à 3 000 euros pour se payer une pirogue. Non, clôture-le et mets des barbelés et fais un puits. Attaque la nappe phréatique et arrose, fais pousser tes légumes, des agrumes, des plantes médicinales et va les vendre dans les marchés locaux. Et là, tu te fais de l'argent et les gens ils vont quitter dans le monde international pour te rejoindre dans ton jardin pour quand même parler ce que c'est la thématique.
C'est incroyable ce que tu es en train de raconter. Tu es en train de raconter que donc pour que les petits villages ne meurent pas et que les jeunes ne partent pas dans les grandes villes ou à l'étranger, toi, tu leur fais travailler la terre localement et tu es en train de me raconter que du coup, vous invitez des étrangers à venir sur vos terres pour voir comment est-ce que vous arrivez avec les moyens du bord. Je crois que vous utilisez des puits à cordes, du matériel local et c'est carrément le monde qui vient vous visiter pour voir comment vous arrivez à faire ça. C'est un exploit parce que c'est une problématique qu'on retrouve dans de nombreux pays.
Oui, exactement. Et merci pour ce paragraphe. C'est tellement important ce que vous dites. En fait, ce qui est important dans ça, le monde qui vient nous voir, c'est parce que certains mondes occidentaux se disent, mais attends, comment ce puits est, comment une puissance est, comment on tire l'eau avec la force, comment on la verse sur terre et comment faire pousser ces légumes, les salades, tomates, carottes, aubergines, choux et tout, poivrons.
Incroyable.
Comment les faire pousser avec des muscles. Donc je pense que c'est quelque chose qui montre effectivement que nous sommes dans un cadre... Attends, excusez-moi, ça peut arriver, excusez-moi.
Et donc tu me parlais aussi de... Bah tiens, je crois qu'au Sénégal, vous avez deux saisons.
Nous avons saison sèche et saison de pluie, comme on appelle ici.
Du coup, c'est une contrainte un peu. C'est aussi une contrainte parce que vous avez la saison de pluie qui est beaucoup plus longue. Je crois qu'elle fait à peu près 6 mois. Les saisons sèches qui sont plus longues aussi.
Elle fait 3 mois, juin, juillet, août. En gros, 4 petits mois, 3 gros mois pour la saison de pluie. Et là, ce n'est pas un grand avantage.
Comment ça se passe, papy? Tu diversifies tes cultures. Tu fais pas de la monoculture. Tu fais de la polyculture avec les terrains. Comment ça se passe? Comment il est votre jardin à Cabadio?
Merci. La plus grosse erreur monumentale que nos mamans commettaient, en fait, c'est qu'elles viennent chacune occupe une parcelle et elles font malheureusement ce qu'on appelle la monoculture. C'est-à-dire ma mère, elle fait que des oignons. L'autre, elle fait que des tomates et l'autre, voilà. Donc, il y a un problème. Nous, on s'est dit la polyculture. C'est-à-dire, dans un jardin, on a une partie d'oignons et entre les oignons, on peut faire des tomates, des salades, des choux, des poivrons. Donc, quand on mélange tout ça, et il y en a quelqu'un qui va passer prendre des salades. Le lendemain, quelqu'un va venir commander des tomates. Et maintenant, cette polyculture, aujourd'hui, elle est super intéressante. Parce que certaines mamans disent, quand vous faites la polyculture, il y en a certains légumes qui meurent. Non, en permaculture, on nous conseille de savoir faire son propre sol. C'est ça qui a amené l'histoire du compostage, le compost. Et quand on fait son propre sol, on peut même faire pousser des choses sur une dune, c'est-à-dire sur un sable. Parce que le sable, quand on fait pousser des choses dans un désert, il faut savoir faire la terre, parce que ce n'est pas un sable fertilisant. Donc, créer des herbes et faire des bouches de vache, c'est-à-dire des coupes d'arachide, et faire un bon mélange pour faire des buts. Et quand on fait des buts, tout peut pousser. Et c'est très dommage de faire développer une monoculture devant une polyculture. Ouais. Donc la polyculture, elle enveloppe tout, et il y a toutes les semences, il y a tous les légumes qu'on peut avoir en même temps dans le jardin. Et ça, il y a la beauté, mais il y a aussi on peine d'avenir, en fait.
Papis, comment tu récupères les matériaux pour le jardin?
Comment on récupère?
Les matériaux que tu utilises pour faire les jardinières, comment tu récupères tout ça?
Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelques secondes, tu parlais des moyens de bord.
Ouais. Bon,
c'est les moyens de bord, parce qu'aujourd'hui, quand on veut faire des buts, je ne sais pas si j'ai compris la question, on a nos pelles traditionnelles, des baramines, et des creusoirs et des petites brouettes traditionnelles qu'on utilise parce qu'on se dit en permaculture, on n'a pas besoin d'avoir des tracteurs, on n'a pas besoin d'avoir des camionnettes pour devenir un permaculteur. Il en faut pour être heureux, ça, il y a une des chansons françaises que j'aime beaucoup qui parle de ça. Donc je pense qu'on se contente de ce qu'on a, juste une pelle, une pioche, une baramine, un creusoir, un arrosoir, on a son jardin. Et plus on fait des légumes, parce qu'il y a à vendre, les bénéfices, on peut acheter quand même des matériaux. Donc comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc en permaculture, il faut quand même emboîter les pas d'un oiseau qui part chercher une feuille, qui branche, le lendemain, il part. Et une semaine, il fait son nid. Donc, c'est comme ça exactement. Les moyens de bord qu'on a ici, ce n'est pas des matériels qui nous viennent en Europe ou des matériels qui nous viennent dans les quinquennats. Non, c'est nous-mêmes qui les collectons ici. Et si quelqu'un nous aide avec un tout petit financement pour ça, on va les acheter dans une quincaillerie facilement et on a nos matériels à nous.
Ok. Papis, une petite dernière question. Tu me parlais tout à l'heure d'herbes médicinales.
Oui, des plantes médicinales. Il y a seulement 2 petites années, nous avons accueilli un groupe de jeunes filles. Et elles étaient 6. Elles ont amené 120 kilos de médicaments. J'espère qu'elles vont m'écouter parce qu'elles ont le lien. Elles étaient venues à Cabadio pour un séjour de 3 semaines pour l'hôpital de Cabadio. Et oui, quand on a visité le jardin botanique de Cafontine, jardin de Bindula, les plantes médicinales comme l'artémisia, le moringa, la citronnelle, le calanthué, des noms scientifiques dont vous ne connaissez pas tous. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que ça fait? L'artémisia, on a guéri. J'ai même parlé un peu de Solfagato, l'artiste local du village de Cabadio, un acteur de développement, qui était atteint du paludisme et qui, au lieu d'aller à l'hôpital, il est passé à Bindula, à Cabadio, pour se faire soigner. Nous lui avons donné l'artémisia, le fameux médicament, la plante médicinale qu'on dit que ça guérit le coronavirus.
Ouais.
Donc, quand tu étais venu, nous lui avons donné ça. Et l'infusion avec ça, tu bois et le palud part. Donc, le moringa, ça soigne 300 maladies, disent les scientifiques. Et donc, il y a seulement 3 jours, la sage-femme du village de Cabadio, la sœur Larissa, m'a contacté pour me dire « On a besoin de vos plantes médicinales telles que le moringa parce que les femmes enceintes en ont besoin. » Donc, l'importance des plantes médicinales montre effectivement que chaque fois quand on a mal à la tête, pas la peine de prendre tout de suite le doliprane ou le paracétamol. Quand on a la diarrhée, pas la peine de prendre tout de suite le smecta. Quand on a mal à la tête, pas la peine de prendre tout de suite en aspégique. Donc, je pense qu'il est important d'utiliser les plantes naturelles qui poussent de la terre, comme le quinqueliba, comme le moringa, faire l'infusion et boire cette boisson chaude. Buvant cette boisson chaude, on dort. Quand on se réveille, écoute, la douleur, elle est partie. Donc, c'est ça qui nous motive aujourd'hui à planter beaucoup de plantes médicinales dans nos jardins. Et c'est super intéressant.
C'est formidable, Papis.
La polyculture, parce qu'on les mélange et elles poussent. Et il y a une communication qui se fait entre elles. Parce qu'aujourd'hui, la communication entre les plantes, elles se font comment? Elle se fait comment, cette communication? C'est que quand tu mets ici au moringa, à droite, on met de l'artémisia, et à gauche, on met quoi? On met de la citronnelle. Donc, quand elles poussent toutes ces plantes, et on voit une communication entre elles.
Oui.
C'est-à-dire elles vont pousser et elles vont se rejoindre en haut. Et on voit effectivement qu'il y a une merveilleuse communication entre ces plantes.
Oh, Papy, ce que tu racontes, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'avec une pelle, un arrosoir, une pioche, en plein désert, tu fabriques une terre artificielle, tu arrives à faire pousser des légumes, tu arrives à faire pousser des plantes qui soignent. C'est un très, très, très bel exemple et un très beau message d'espoir, en fait, que tu es en train de nous montrer. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Et je te propose qu'on écoute Tiken Jaffa Coli.
Ah, écoute, ça vous va droit au cœur.
Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Se battre, se battre comme ils l'ont fait il y a longtemps, il y a longtemps, il y a longtemps. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne laisse aimer. Aucun espoir pour nos révoltes si personne ne veut les mener. Dès à présent, dès à présent. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Les Africains nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix.
Les écolos en cavalcade avec notre invité Khalifa Papis Souané en direct du Sénégal. Toujours là, Papis?
Je suis là.
Il est toujours là. Alors là, du coup, on continue l'émission. Je vais vous parler d'un zèbre du mouvement Bleu-Blanc-Zèbre, un zèbre qui s'appelle Héritage et Civilisation et qui a lancé une initiative qui s'appelle Odyssée. Alors, c'est une initiative liée à l'éducation. Cette association se situe à Paris. La présidente, c'est Lara Scarlett Gervais. Qu'est-ce que c'est qu'Odyssée ? Odyssée, c'est un programme francophone éducatif destiné aux enfants. Il s'agit de jumelage de classes de France et du monde à l'aide de nouvelles technologies informatiques et de communication. Donc en fait, l'objectif, c'est faire découvrir le patrimoine local à travers des moyens artistiques tels que la BD, le montage vidéo, l'exposé oral. Donc en fait, ça a été validé par l'UNESCO, je le dis parce que c'est important. L'UNESCO, c'est l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et si vous voulez vous en rapprocher, donc il y a un site internet, hein, Héritage et Civilisation, une page Facebook, Héritage et Civilisation. Rapprochez-vous-en pour mettre en place du jumelage de classes avec les enfants qui chacun, en fait, localement vont créer des supports de communication pour valoriser leur patrimoine historique et naturel. Et puis il y a des échanges, c'est le système du jumelage national, international. Ça permet aux enfants de travailler sur leur patrimoine local et en même temps de découvrir le patrimoine mondial. Et c'est une très très belle initiative. Qu'est-ce que t'en penses, Papis?
C'est des initiatives à encourager. Ouais. C'est des initiatives à encourager parce que effectivement, comme on disait en doyen africain, il faut savoir copier les bons exemples sur les autres. Donc je pense que moi, ça me motive parce que j'aurai rendez-vous avec le directeur de l'école de Cabadou. Donc, ce paragraphe, je pense que je lui transmettrai ça parce qu'effectivement, c'est un bon exemple à copier. Et aujourd'hui, quand on voit les gens dans ces actions, les répéter, ouais, pour donner, comme on appelle, les questions pédagogiques, hein, répéter ces choses-là et copier et les ramener ici, je pense qu'effectivement, c'est une initiative à encourager avec beaucoup de force.
Eh bien, c'est formidable, Papis. Petite question. Deux petites questions un petit peu liées à l'actualité. Covid au Sénégal, comment ça se passe? Comment vous le vivez?
Au début, nous le vivons très sérieusement, mais maintenant, le sérieux, il est parti. Il est parti dans le sens où les gens, maintenant, l'information qui se passe à la télévision, ça n'a rien à voir avec la réalité qui se passe sur le terrain. Donc okay. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de politique et même les tests de Covid-19. Aujourd'hui, on porte les masques parce qu'il y a un gendarme qu'on voit. Okay. On porte les masques parce qu'on entre dans une agence publique. On porte les masques parce qu'on entre dans une banque.
C'est pour prévention, d'accord. Bon, bah, c'est déjà... C'est rassurant ce que tu dis. J'ai une deuxième petite question liée aussi à l'actualité. En ce moment, il y a un sujet d'actualité qu'on entend beaucoup. C'est l'histoire de la consommation de la viande dans les écoles, pour les repas, pour les enfants. Comment ça se passe, les enfants dans ton village, comme l'alimentation? Tu peux m'en dire deux, trois mots?
L'alimentation aussi, il y a déjà ma fille qui est à l'école, une école construite par les Français. Les amis de la Casamance qui se trouvent en France, le chapelle de Guinchet. Donc, à chaque fois, quand elle vient, je dis, mais vous avez mangé quoi? Elle me dit, la viande. Vous avez mangé quoi, la viande? Mais aujourd'hui, nous consommons, je ne sais pas si je réponds exactement à la question.
Je voudrais savoir comment ça se passe, en fait, au Sénégal, justement, sur la viande.
Bah ouais, en fait, si vous voulez bien, ici, les viandes, la viande la plus... consommer, je ne sais pas si c'est comme ça, c'est la vache, le mouton, voilà, et la chèvre. Maintenant, comme nous, chez les musulmans, on a des viandes qu'on ne mange pas, vous le savez très bien, des viandes halal et haram. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que moi, je peux apporter comme réponse, c'est qu'aujourd'hui, la consommation des viandes, ça pose comme ça, la consommation des viandes?
Oui, c'est ça que je voudrais savoir.
Voilà, c'est très fréquent, si vous voulez, dans les restos, par commande, mais, pas, bah, mais dans les familles ne peuvent pas avoir les moyens de s'acheter des viandes, parce que la viande, c'est la, c'est c'est, elle est très chère que le poisson. Donc les gens, ils mangent plus de poisson, si vous voulez, les familles, elles, elles mangent une fois par semaine la viande ou deux fois maximum.
Une fois ou deux par semaine, la viande, ok.
Parce, la viande, oui, parce que c'est tellement cher que les gens, ils préfèrent acheter 1,50€ pour 1 kilo de poisson. Alors qu'un kilo de viande, ça coûte 4,50€.
Mais le poisson, c'est très bon pour la santé aussi.
Oui, le poisson, ça dépend de quel genre de poisson. Il y a beaucoup de poissons différents, le barracuda, l'étmalose et tout. Donc, il y a des poissons qui sont moins chers et qui sont consommés beaucoup dans les familles.
C'est dingue parce que chez nous, c'est... Ah, Mathieu, je crois que c'est un petit peu l'inverse. Les gens consomment plus de viande que de poisson.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et puis, la viande est peut-être un petit peu moins chère et plus accessible que le poisson.
Ouais,
bah parce qu'ici on a les pêcheurs locaux qui sont à Niafran, à Béné, à Kafountine, qui pêchent beaucoup de poissons. Et surtout quand il y a beaucoup de poissons, le poisson devient très moins cher. Et c'est ça qui provoque des séchages de poissons fumés. Parce qu'il y a quatre qualités de poissons ici: le poisson frais, le poisson fumé, le poisson sec et les poissons pourris qui sont utilisés dans les
chez moi. Il y a le poisson pané.
Voilà, c'est ça, le poisson pané aussi, que les Nigériens utilisent beaucoup.
Voilà. Ah bah écoute, Papy, est-ce que tu as un message à passer? Tu parlais tout à l'heure de projet, vous cherchez du financement. Est-ce que tu as un message à passer aux gens qui nous écoutent?
Oui, c'est ça, exactement. La jeunesse de Cabodio, l'AJIC, Association des jeunes élus de Cabodio, s'est levée aujourd'hui pour donner le flambeau à nous, la nouvelle génération. La génération de Mustapha Kandioura Diaban, nous sommes derrière lui quand même pour parce que nous avons une frontière vers Carton qui va vers la Gambie. Construire le projet de Halahini, ça signifie construire un bâtiment pour quand même créer un petit garage, en transformer en commerce. Les voitures passent, les Sénégalais qui partent, pour qu'ils payent des taxes communales moins chères, pour que quand même il y ait une caisse de la jeunesse de Cabodio pour d'autres infrastructures, parce que c'est tellement important de traverser les frontières en traversant Cabodio pour aller à Katon, le village voisin, pour entrer en Gambie, okay. Et que ces commerces passent sans payer les taxes communautaires, comme on dit.
Ouais.
Donc, le président a installé cela, et nous avons aussi le grand fameux foyer socioculturel du village de Cabodio qui va prendre la fin, parce que c'est un foyer socioculturel dans lequel se passent toutes les activités culturelles, religieuses, musicales, artistiques, etc. Donc ça aussi, ça fait partie du projet de l'AJIC de Cabodio. Et il y a encore un autre projet qui est beaucoup plus important, c'est le projet de la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous viennent partout de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, des peuples qui coupent les bois pour se faire des charbons de bois. Et quand ils font le charbon de bois, ils les vendent dans des campements, dans des hôtels privés et tout. Ça nous choque. Parce qu'au lieu d'aider les arbres à pousser, vous les coupez. Et quand on coupe un arbre, l'arbre, il te parle. Mais malheureusement, toi, tu ne l'entends pas. Alors, donc, pourquoi tu ne l'entends pas? Parce que quand tu coupes, elle saigne. Quand l'arbre saigne, ça veut dire effectivement, il te dit, ne me coupe pas, mais tu coupes. Et tu démanches les branches, tu te fais un four. Un four pour faire des kembos, c'est-à-dire des charbons de bois. Et après, il transporte des arbres, des branches, pour les amener à Kafountine. Parce que ceux qui font fumer le poisson, ils ont besoin des bois, de la brousse. Donc la protection de l'environnement fait partie des projets les plus sensibles de la jeunesse de Cabodio. Et je pense que protéger la forêt en Casamance, je pense que ça doit être la première mission de tout un citoyen.
Et tu as raison. Protéger la forêt, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation chez toi, c'est une préoccupation dans le Beaujolais, c'est une préoccupation mondiale. Protégeons et préservons la forêt, c'est le poumon de la terre.
Exactement.
Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, je vais te remercier d'avoir été avec nous durant toute l'émission.
Merci beaucoup de m'avoir invité depuis ici.
Au plaisir, Papis. Eh ben, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et puis à la prochaine pour l'émission Les Écolos en Cavalcalade. Au revoir tout le monde. Au revoir, Papis. Salut, Mathieu.
Merci.
Les Écolos en Cavalcalade.